Scénario Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Meurtre à la mosquée est un livre enquête dans lequel se mêlent autant la politique que la religion. Le deuxième calife, Oumar, est tué par un esclave perse après 10 ans de règne et l'autrice du récit, El Awardi, confronte les différentes sources premières de la tradition musulmane pour en dresser un récit fidèle et argumenté. Elle nous donne au passage un portrait précis du premier commandeur des croyants, dont l'assassinat s'avère décisif pour l'histoire de l'islam. Une émission réalisée par Mathias Golchani à retrouver sur notre site rfi.fr. Bonjour El Awardi.
Bonjour Éric Bataillon.
Ravi de vous retrouver à ce micro. Nous vous avions reçu dans Orient Hebdo lors de la sortie de vos précédents ouvrages de cette série, Les Califes Maudits, et même du précédent et premier livre, Les Derniers Jours de Muhammad. El Awardi, alors plus qu'un récit ou un portrait du second calife, Oumar, Meurtre à la mosquée, votre dernier livre, est-il une sorte d'enquête policière ?
C'est une enquête policière et aussi doublée d'une biographie de ce personnage haut en couleur et qui, malheureusement, pour des raisons que je ne comprends pas d'ailleurs, n'a jamais fait l'objet d'un travail d'enquête biographique qui le présente dans son rôle important dans l'histoire de l'islam et je dirais dans l'histoire universelle puisque son califat qui a duré 10 ans a changé la face du monde puisque c'est durant la période de son règne que l'islam s'est propagé dans des pays stratégiques, en Iran, en Irak, en Syrie et en Égypte.
Alors justement, comment est perçu ce second calife, Oumar, dans les différents courants de l'islam, par la tradition, avec un grand T ?
Oui, alors justement, c'est l'une des problématiques les plus complexes auxquelles j'étais confrontée quand j'ai commencé à faire l'esquisse de ce portrait, c'est que il y avait une différence énorme entre la perception qu'avait la première génération des musulmans de cet homme et les générations suivantes. Pour la première génération des musulmans, surtout qui étaient parmi les premiers convertis à l'islam, ceux qui étaient parmi les proches compagnons du prophète et les membres de sa famille, ce personnage était vraiment un personnage secondaire. D'abord parce que au départ, il a manifesté une hostilité très virulente à l'égard de Mohammed, à l'égard de sa prédication, il a même tenté de le tuer. Relativement à d'autres compagnons importants, il s'est converti relativement tard. Il n'appartient pas à la famille du prophète. Il vient, sur le plan strictement sociologique, d'un clan plutôt, disons ce que j'appelle moi, la roture de la tribu de Quraysh, la tribu de naissance du prophète. Donc, il n'avait pas, aux yeux des compagnons du prophète et des membres de sa famille, l'importance qu'il va avoir bien plus tard pour les futures générations qui vont non seulement donc le présenter comme un prophète bis pour les sunnites et l'idéal du gouvernant juste, même sa rigueur et son austérité sont présentés plutôt comme de grandes qualités morales que chaque musulman doit imiter. Et d'ailleurs, il y a quantité de hadiths pour moi sans doute apocryphes qui font de lui quasiment le porte-parole de Dieu. Très souvent, il y a même des révélations coraniques qui seraient mot à mot des reprises de phrases prononcées par Omar. Et ça, même les exégètes du Coran le disent explicitement. Donc c'est ça qui m'a semblé un peu étrange, c'est que pour les musulmans, enfin ses contemporains, ils n'avaient pas du tout cette aura sacrée, au contraire même, il était plutôt méprisé. Hein. Et plus tard, il éclipse tout le monde, jusqu'à parfois éclipser le prophète lui-même.
Alors, est-ce que Oumar est un converti tardif ? Et est-ce que cette conversion change quelque chose pour cette religion ?
Oui, tout à fait, parce qu'au départ, il y a une hiérarchie très claire pour les musulmans. Il y a ce qu'on appelle la sabiqa en arabe, qu'on peut traduire par l'ancienneté. L'ancienneté dans la religion, c'est un atout qui permet de faire la classification des compagnons. Et force est de constater que Omar, on dit qu'il a été le 40e homme à se convertir à l'islam, mais ça m'étonne beaucoup. Honnêtement, je remets en cause ce chiffre parce que il s'est converti en l'an 6 de la prédication. Donc, ça veut dire qu'en 6 ans, Mohammed n'aura convaincu que 39 personnes. Ce n'est pas très plausible. Mais je pense qu'ils ont les auteurs de la tradition ont choisi le chiffre 40 qui symbolise en islam l'accomplissement, la complétude. Donc, pour dire qu'en fait, sa conversion était un événement majeur. Donc, il y a une hiérarchie chez les compagnons du prophète. Il y a donc l'argument très important de l'ancienneté religieuse. Le deuxième argument est celui de l'appartenance à la famille du prophète. C'est très important. Il faut qu'il soit d'abord un membre de la tribu de Quraysh et de préférence du clan auquel appartient le prophète. Parce que Quraysh, c'est une immense tribu qui compte de nombreux clans qui ne sont pas tous sur le même pied d'égalité. Il y a les aristocrates et il y a les roturiers qui vivent très souvent d'ailleurs dans la périphérie de la Mecque. Et Omar faisait partie de cette roture quraychite. Alors, l'importance, et c'est là, j'ai eu l'occasion d'en parler précédemment, et c'est là où on voit que le rôle des femmes a été déterminant dans l'ascension des deux premiers califes. Il n'a eu en fait ce privilège de devenir deuxième calife que grâce au mariage de sa fille avec le prophète. C'est sa parenté avec le prophète qui l'a propulsé et qui a fait qu'il prenne un raccourci pour se trouver aux premières loges parmi le groupe des compagnons.
Sa fille Hafsa.
Hafsa, oui.
Et lui-même d'ailleurs va aussi épouser une petite fille du prophète.
Tout à fait. Quand le prophète est mort et qu'il a senti que le seul lien familial qui le relie au prophète a disparu, puisque le prophète n'est plus là, sa fille est devenue la veuve du prophète et que les veuves qui jouaient un rôle politique important ont vu leur rôle petit à petit se dégrader ou plutôt disparaître carrément. Lui, il a senti le besoin pour asseoir sa légitimité, et c'est ça où on constate qu'il avait réellement une carence en légitimité pour lui, parce qu'il y a beaucoup de compagnons qui disaient mais Omar n'a absolument aucun mérite par rapport à nous. Il n'a pas été parmi les premiers convertis, il a au contraire même été contre le prophète pendant quelques temps, et je pense que ce mariage qui avait pour moi des allures de viol sur mineur, parce que la petite fille du prophète n'avait même pas atteint l'âge de la puberté. Et je pense que la motivation d'Omar n'était pas du tout sexuelle dans ce sens, c'est qu'il voulait absolument rétablir la connexion avec la famille du prophète.
Justement, le but que poursuivait Omar, n'était-ce pas un but plutôt politique, ou en tout cas, disons, de monter dans la hiérarchie peut-être commerciale du pouvoir au sein de la première communauté de l'islam, plus que sur le plan finalement religieux?
Oui, ça n'a rien à voir avec la religion. Je pense qu'il a dû s'apercevoir que beaucoup de compagnons grinçaient des dents, qu'il sentait que cet homme n'était pas tout à fait à sa place, qu'il a pris le poste de calife alors qu'il y a d'autres personnes qui le méritaient plus que lui. Surtout que, je l'ai rappelé dans le livre, il n'y a pas eu d'élection du deuxième calife. Il ne tire sa légitimité que du fait que son prédécesseur, Abu Bakr, sur son lit de mort, l'a désigné comme successeur. Et c'était d'ailleurs un phénomène assez étrange que j'ai constaté, c'est que la cérémonie d'allégeance au calife, c'est un protocole auquel les Arabes étaient très attachés. Même avant l'islam, c'était pas des califes, mais le seigneur de la tribu devait recevoir ce qu'on appelle la baya, c'est-à-dire l'allégeance. Et pour Omar, il n'y a pas eu cette cérémonie-là. C'est comme si il était calife de fait. Tout le monde a été mis devant le fait accompli. Donc je pense que pendant tous les 10 ans de son règne, il était conscient de cette faille de légitimité qu'il avait. Et pour faire taire les compagnons, il a épousé la petite fille du prophète pour montrer qu'il avait un bout de l'autorité du prophète à travers sa petite fille. Et il espérait, en fait, comme Ali, avoir des descendants. En épousant cette petite fille, elle lui a donné d'ailleurs 2 enfants, il espérait que, en fait, les enfants d'Omar seraient de fait les arrière-petits-enfants du prophète, voilà.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous sommes en compagnie d'Ella Wardi, professeure de littérature et de civilisation française à l'Université de Tunis, chercheuse associée au laboratoire d'études sur les monothéismes au CNRS. Avec vous, nous parlons de votre dernier livre, Meurtre à la mosquée, 3e volet de votre série des califes maudits. Ella Wardi, Oumar était-il un concurrent du prophète Mohammed ? On a l'impression qu'il y a entre eux parfois une joute par sourate ou verset interposé.
Oui, c'était assez curieux de constater ça, de voir que ce compagnon qu'on nous présente toujours comme le fidèle parmi les fidèles, ben, il avait des relations conflictuelles très souvent avec le prophète. Il contestait certaines de ses décisions, surtout les décisions politiques, quand il voyait que le prophète faisait preuve d'une certaine clémence ou d'indulgence avec ses adversaires, lui plutôt il l'incitait à les combattre, à les tuer, etc. Ça c'est son caractère, je pense qu'il y avait déjà à la base entre les deux hommes une incompatibilité de caractère. Mohammed était plutôt un homme fin, qui savait manier la carotte et le bâton. Omar, lui, c'est uniquement le bâton. Hein. Déjà, donc, j'ai constaté qu'il y avait toujours des frictions entre les deux hommes par rapport à certaines décisions politiques du prophète. Et le deuxième phénomène qui rendait les relations entre les deux hommes parfois tendues, c'est que Omar avait la fâcheuse habitude d'intervenir dans les affaires privées du prophète, ce qui l'incommodait. Par exemple, on sait que le port du voile qu'on va imposer aux épouses du prophète et à travers elles à toutes les femmes musulmanes, puisque les épouses du prophète sont le modèle à suivre, ben c'est Omar qui est derrière. Mohammed n'a jamais voulu voiler ses femmes. Et c'est lui, il lui dit, non, mais tu te rends pas compte, quand même, tu reçois plein de monde chez toi, et il y a les gens vertueux comme les gens débauchés, il faut soustraire tes femmes au regard. Il a été vraiment, et d'ailleurs le verset du hijab tel qu'il a été révélé dans le Coran, est quasiment mot à mot, reprend la phrase que Omar a dite au prophète à ce sujet-là. Même chose aussi pour la violence contre les femmes. Mohammed détestait battre les femmes et c'est Omar qui l'a incité à recourir à ce moyen-là pour corriger les épouses récalcitrantes. Et curieusement, là aussi, un verset du Coran est révélé pour donner raison à Omar.
Omar était-il misogyne ?
Pas plus que les autres hommes de sa génération, mais sauf que lui, je pense qu'il avait une qualité. Hein, malgré, c'est un homme assez effrayant. Hein.
Massif, grand.
Massif, violent. Il est parfois primaire. Il n'est pas sanguinaire, curieusement. C'est un autre paradoxe, mais il avait une forme de franchise qui faisait que, en fait, tout ce que les gens disaient tout bas, ils le disaient tout haut. Et curieusement, je pense que c'était la qualité que Mohammed appréciait le plus chez lui. C'est que Mohammed avait, et ça beaucoup de versets dans le Coran le disent, il y a les mécréants et il y a les hypocrites. Les hypocrites sont dénigrés plus que les mécréants. Parce que ils ont un double visage et Mohammed en a souffert. Et justement, Omar était l'antithèse de l'hypocrite. Il lui disait clairement et franchement, parfois d'une manière très violente, et même en ayant recours de temps en temps à l'affrontement physique. Une fois, pendant une prière, il a poussé le prophète. Et lui-même, après, en se rappelant cette scène, il dit « Je suis vraiment surpris de mon audace avec le prophète ». Donc du coup, la misogynie de Omar a toujours été présentée comme une des caractéristiques de cet homme. Mais quand j'ai vu quand même l'évolution de sa vie, de ses rapports aux femmes, j'étais très étonnée. Je vous donne un exemple, je pense qu'il va résumer toute la situation. Quand il est mort, Omar, il a désigné comme unique héritière sa fille Hafsa, l'épouse de Mohammed, alors qu'il avait d'autres garçons. Alors, et là, la question de l'héritage en islam, vous le savez, le verset coranique stipule que la femme doit hériter la moitié de la part d'un homme, de son frère. Eh bien, Omar a tout laissé à sa fille Hafsa, et ça montre qu'en fait, d'abord, que le verset coranique en question est peut-être bien postérieur à l'époque de Omar, parce que je vois mal Omar, qui est très rigoureux, désobéir à une injonction divine, et ou aussi que Omar n'avait pas une opinion si défavorable des femmes. D'ailleurs, il était violent, beaucoup plus violent avec les hommes qu'avec les femmes.
Qu'est-ce que l'accession de Omar au califat va changer pour la communauté des croyants à cette époque ?
Au départ, il n'y avait pas le sentiment d'un changement, puisque comme c'est le prédécesseur Abou Bakr qu'il a désigné. Donc, on était plutôt dans la logique de la continuité. Comme on a choisi Abou Bakr, soi-disant, parce que le prophète l'avait désigné pour diriger la prière pendant sa dernière maladie. Donc, on a pensé que on a fait tout de suite le raccourci. Voilà, puisqu'il l'a désigné comme imam à sa place pour guider la prière. Donc, c'est pour guider toute la communauté. Et donc, Omar va tirer sa légitimité d'Abou Bakr, qui tire sa légitimité du prophète. Donc, on était là dans la logique de la continuité. Sauf que, là aussi, les apparences sont vraiment trompeuses. Omar, d'abord, ne va pas se désigner, et c'est lui qui l'a décidé, comme successeur du prophète. Il va se désigner comme commandeur des croyants. Le fait de choisir un nouveau titre montre que, dans sa tête, parce que c'est un homme, une tête politique, hein, malgré peut-être ses méthodes un peu rudimentaires, c'est un fin stratège. Il a décidé, en se donnant le titre de commandeur des croyants, un titre qui est toujours d'ailleurs très à la mode hein, maintenant, qui est très prestigieux dans le monde musulman. Donc le titre de commandeur des croyants montre que, en fait, on a changé de perspective et que il ne tire plus sa légitimité du prophète, mais plutôt de l'autorité qu'il va exercer lui-même sur les croyants.
Et l'avoir dit, nous disions en début d'entretien que ce texte est une sorte d'enquête policière avec cette question que vous posez d'ailleurs, qui veut la tête d'Omar. D'abord, connaît-on son assassin ?
Théoriquement, oui, on connaît son assassin, comme on connaît l'assassin de Henri IV, c'est Ravaillac. Mais la question qui se pose, qui a armé la main de cet illustre inconnu, un individu sorti de nulle part, et qui, comme ça, poignarde le calife pendant qu'il prie à la mosquée. Quand même, ce n'est pas rien. Il n'est pas allé le voir à la maison ou comme Henri IV dans la rue. Non, c'est à la mosquée pendant qu'il priait. Donc, c'est un geste, à mon avis, qui est lourd de signification. Et il y a un message derrière. Et ce qui rend le questionnement légitime par rapport à, d'abord, l'identité du meurtrier, un esclave perse, qui s'appelle Abu Lu'auf, alias Fayrouz.
Musulman ?
On ne sait pas. Pour moi, il doit être musulman. Parce qu'il y a une raison toute simple. S'il n'était pas musulman, il ne pouvait pas entrer à la mosquée. C'est très simple. Il est musulman. Je pense qu'il est musulman. Et qui l'a poussé à aller assassiner Omar pendant la prière, c'est la grande question que je pose. Parce que, et je ne vais pas dire, hein, parce qu'il faut que le lecteur découvre les différents rebondissements de l'enquête, la chose qui me semble certaine, c'est que beaucoup de gens avaient intérêt à ce qu'il meure. Comme dans le crime de l'Orient Express. Voilà, j'en dis pas plus.
Et en quoi l'islam a-t-il basculé ce jour-là ?
Tout simplement parce qu'avec Omar, je le dis dans l'épilogue du bouquin, disparaît l'islam républicain et se dresse à la face du monde l'islam impérial. Parce que le calife qui a suivi Othman, qui appartient au clan Omeyyade, même si c'est pas Othman qui a été le fondateur de la dynastie Omeyyade, qui va se construire quelques années plus tard à Damas, eh bien, les Omeyyades se sont déjà emparés du pouvoir. Et le projet politique que Othman portait et qui va être ensuite transmis à son neveu Mouawiya, eh bien, déjà, nous sommes dans la rupture. Et ce qui est important pour moi, c'est que sur le plan sociologique, Omar, comme son prédécesseur Abou Bakr, appartenait, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la roture de Quraysh, alors que le clan des Omeyyades, Quraychites aussi, comme le clan du prophète, les Hachémites, appartiennent à l'aristocratie. Donc pour moi, c'était la restauration de l'Ancien Régime. Mais cette restauration de l'Ancien Régime ne va pas impliquer un renoncement à l'islam et un retour au paganisme, parce que l'islam avait déjà fait ses preuves grâce à Omar, grâce à l'expansion géographique et territoriale qu'il a permis, et surtout grâce aux richesses qu'il a pu générer. Donc les Omeyyades ne sont pas fous. Ils ne vont pas, en assassinant Omar, égorger la poule aux œufs d'or, non. Donc ils vont garder l'islam et ils vont restaurer le pouvoir de l'aristocratie de Quraysh.
Merci de l'avoir dit.
C'est moi qui vous remercie, Eric Bataillon.
Votre dernier livre passionnant, Meurtre à la mosquée, merci, est le troisième volet de votre série des Califes maudits et il est publié chez Albin Michel.
En sol majeur.